Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL.
Dans le monde entier, une créature fascine plus que toutes les autres l'imagination humaine. Jamais capturée. On l'appelle Yeti ou Sasquatch. Mais son nom le plus connu est Bigfoot.
La curiosité est un vilain défaut.
Quelque chose s'élève comme ça, peut-être sur le mot Kalembembe.
RTL.
Ils ont vu un énorme serpent qui s'est soulevé de l'eau.
Nessie, le monstre du Loch Ness. C'est en 565 que la mystérieuse créature fait parler d'elle pour la première fois.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le monstre du Loch Ness, le Mokelemembe, le Yeti, eh bien, devinez qui sont à leur trousse, ce sont les cryptozoologues, ces scientifiques. Cette science étonnante qui cherche à prouver en fait l'existence d'animaux méconnus, voire mystérieux. C'est passionnant et pour nous en parler, Éric Buffeteau, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, vous êtes paléontologue, oui. Directeur de recherche émérite au CNRS et vous êtes intéressé, même passionné pour cette science et vous publiez dans la revue Éléphant du mois d'octobre un article sur ce thème, c'est en partenariat avec RTL. On adore les étymologies, l'origine des mots, la curiosité. Cryptozoologie, il va falloir vous y coller. Ça veut dire
quoi ? Alors cryptozoologie, ça vient de trois mots grecs, hein, qui sont cryptos, qui veut dire caché, zoon, qui veut dire animal, et gogos, qui veut dire discours ou science. Donc c'est la science des animaux cachés.
Alors, c'est une science jeune ? Vieille.
C'est, alors,
mythique,
est-ce
antique.
Que c'est vraiment une science ? On peut en discuter. C'est une, je dirais plutôt que c'est une approche qui, dans le meilleur des cas, relève de la zoologie. Alors, c'est relativement jeune. Le mot lui-même, il a été proposé, disons, dans les années 50 par un zoologue belge qui s'appelait Bernard Heuvelmans. Qui est né il y a tout juste 100 ans d'ailleurs, en 1916, et qui s'est intéressé énormément à cette question des animaux inconnus et qui a proposé ce mot.
C'est quoi le métier de cryptozoologue quand Bernard Heuvelmans l'invente, qu'est-ce qu'il fait en fait?
Bernard Heuvelmans, c'était quelqu'un d'assez atypique qui avait passé une thèse de zoologie des plus sérieuses à Bruxelles, mais qui ensuite n'a jamais été employé dans une institution scientifique officiel. Alors, au début des années 50, il a fait toutes sortes de choses. Il a été membre d'un orchestre de jazz, il a écrit des bouquins sur comment échapper à la mort, des choses comme ça. Il a écrit des nouvelles érotiques, il a fait toutes sortes de choses. Mais en même temps,
il a révélé l'existence d'animaux. Est-ce qu'on lui doit la découverte de certains animaux,
On lui doit pas vraiment la découverte de certains animaux, mais on lui doit un énorme travail de recensement de ces animaux mystérieux. Et de ce qu'on pouvait penser à leur égard. Il a proposé des interprétations pour dire le grand serpent de mer, ça pourrait être ceci, le Yeti, ça pourrait être cela. Mais on ne peut pas dire qu'il ait vraiment découvert de façon claire un animal inconnu.
Donc c'est aussi un métier où on travaille sur les croyances humaines.
On travaille beaucoup sur les croyances humaines, oui. Parce que c'est un métier, comme il l'a dit lui-même, où on se sert beaucoup d'indices, de témoignages. Alors, les témoignages jouent un rôle énorme dans la cryptozoologie, avec tout ce que ça implique pour savoir quelle est leur véracité, leur fiabilité.
Et parfois, on peut se faire un peu rouler, comme on le découvre au JT de 20h, ce 10 janvier 1961.
Souvenez-vous, il y a une quinzaine de jours, M. Bernard Heuvelmans était à côté de moi, aux côtés de Sir Edmond Hillary, qui nous ramenait un soi-disant scalp de Yeti. M. Heuvelmans, qui est l'un des trois grands spécialistes européens de la question, nous avait dit « Ce scalp est authentique, j'y croirai jusqu'à que... » l'on me démontre le contraire. Et M. Heuvelmans vient aujourd'hui nous dire, ce scalp était un faux. M. Heuvelmans, comment vous êtes-vous rendu compte que ce scalp était un faux après nous avoir dit qu'il était vrai?
Parce qu'on m'a démontré qu'il était possible de fabriquer ce scalp à partir de la peau du cou d'un autre animal.
Alors c'est terrible parce que ce Yeti, on veut le trouver, on y croit et à la fois là on a un faux scalp. Ouais. Ça revient à cette recherche, on est autour de cette recherche de l'abominable homme des neiges, c'est ça qui obsède ce cryptozoologue
qui obsède pas mal de gens depuis qu'on a commencé à en parler, je dirais vers la fin du 19e siècle quand des explorateurs anglais ont vu des empreintes un peu étranges dans la neige, dans l'Himalaya et ont recueilli des histoires de la part des indigènes sur cette espèce de grande créature qui vivrait dans les montagnes. Et depuis, le mystère demeure.
Enfin, on cherche quand même une bête, ouais, qui s'appelle l'Almasti.
L'Almasti, alors c'est ça, c'est ça dans le Caucase.
Ouais. Et c'est à chaque région, son yéti, quoi. C'est un peu ça.
C'est même un peu troublant parce qu'il y en a partout. Des hommes velus, enfin des primates velus, sauvages, on entend parler depuis l'Amérique du Sud jusqu'à l'Australie, si vous voulez. Donc, c'est un peu troublant. Et puis, ça ramène à quelque chose qui est le thème de l'homme sauvage, qui était très répandu au Moyen-Âge en Europe, mais qui a une valeur symbolique aussi. L'homme sauvage qui vit dans la forêt, il s'oppose à l'homme civilisé, au chevalier. Et est-ce que c'est une créature réelle dans l'esprit de l'homme du Moyen-Âge? J'en suis pas du tout certain. Alors aujourd'hui, on en parle comme éventuellement une créature réelle qui pourra s'appeler l'Almasti au Caucase, ou le Yeti dans l'Himalaya, voire le Bigfoot aux États-Unis. Alors qu'est-ce qui relève du mythe? Qu'est-ce qui relève de la réalité zoologique? C'est ça le grand problème.
Alors on quitte la légende pour le vrai, la vraie vérité, enfin on espère, avec un animal découvert par des cryptozoologues, c'est le soala. J'ai pas dit le koala, parce que j'ai un chat dans la gorge. Le soala. À tout de suite, les curieux.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Peut-on découvrir de nouveaux animaux dont l'existence était cachée jusqu'à présent, méconnue, inconnue? Oui, répondent les cryptozoologues. Et notre invité, Éric Buffeteau, qui lui est paléontologue, nous détaille cette science un peu particulière à l'occasion de la publication d'un article dans la revue Éléphant. C'est un partenariat avec RTL. La cryptozoologie, elle semble évidente si on parle de statistiques. On connaît quel pourcentage des animaux vivant sur Terre?
C'est difficile à évaluer. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le nombre d'espèces recensées actuellement n'est qu'une fraction de ce qui existe vraiment. Ça, on est certain. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que chaque année, on découvre plusieurs milliers de nouvelles espèces.
Et on les découvre particulièrement où? Sur Terre, dans les mers?
Partout.
Plus des
partout.
Insectes, des poissons?
Alors, effectivement, ça va plutôt être des espèces pas forcément très spectaculaires. Ça va être des insectes en majorité, ça va être des mollusques, ça va être des petits vertébrés, ça peut être des petits oiseaux ou des grenouilles, des choses comme ça. Et ça va pas faire la une des journaux, évidemment. Et
c'est pas le Yeti, quoi.
C'est pas le Yeti. Et c'est les zoologues qui trouvent ça dans leur travail de tous les jours, d'inventaire de la faune de certaines régions du monde, et qui découvrent donc plusieurs milliers de nouvelles espèces chaque année.
Et puis parfois, il y a des découvertes un peu plus spectaculaires. Voilà. Par exemple, 22 décembre 1938, on est au large des côtes sud-africaines. On pêche quoi?
On pêche un drôle de poisson d'1,50 m de long, avec des écailles plutôt bleues. Et le capitaine du bateau alerte le musée d'histoire naturelle locale, une petite ville portuaire d'Afrique du Sud, parce que d'abord il le fait régulièrement pour montrer ce qu'il a trouvé. Et là, il a bien vu qu'il y a quelque chose de bizarre. Et la conservatrice du musée, une jeune femme qui s'appelle mademoiselle Courtney Latimer, voit tout de suite que c'est quelque chose de vraiment pas commun. Alors elle essaie, c'est l'hémisphère austral, donc c'est l'été là-bas, donc pour conserver le poisson c'est pas évident. Elle fait de son mieux pour le garder après en bon état, et elle alerte un spécialiste de poissons dans l'université la plus proche. Alors c'est au moment de Noël aussi, alors il peut pas venir tout de suite, et quand il vient il est stupéfait parce qu'il voit que c'est un sélacanthe, c'est un représentant d'un groupe de poissons qu'on croyait éteint.
Mais depuis combien de temps?
Depuis à peu près 80 millions d'années.
Mais c'est incroyable. Alors comment on peut expliquer qu'on a pu pêcher ce poisson-là?
On a pu pêcher ce poisson-là parce qu'en fait, ça a pris du temps, mais on s'est aperçu qu'il en existait toute une population qui vivait notamment autour des Comores, donc dans l'océan Indien.
Mais ils vivent très en profondeur.
Ils vivent vers 200 mètres de profondeur. D'accord. Alors, ce qui est curieux, c'est que les habitants des Comores, ils en pêchaient de temps en temps. Ils savaient que ça existait. Il y avait un nom pour ce poisson, mais la science ichtyologique ne le connaissait pas. Et donc, ça a été une surprise colossale. Et ensuite, donc, le professeur Smith, qui est identifié comme un sélacanthe, a passé des dizaines d'années essayant de trouver un deuxième. C'est que dans les années 50 qu'il en a trouvé un second. Et après, bon, maintenant, on en voit un peu dans tous les musées de zoologie du monde.
Et un peu dans les mers encore quand même, oui.
C'est une très bonne question parce que la surpêche à des fins scientifiques de ce sélacanthe n'a pas amélioré les chances de survie de l'espèce.
Il y a une autre histoire de cryptozoologue que vous racontez dans votre article passionnant dans la revue Éléphant du mois d'octobre. C'est cette histoire autour de cet animal qui ressemble à une antilope, oui, et qu'on appelle le Saola. Tout commence par la découverte de cornes un peu bizarres dans la maison d'habitants de montagne.
Oui, dans les montagnes du Vietnam, à la limite du Laos, dans des endroits vraiment perdus, hein, des endroits pas très accessibles, et des montagnes couvertes de forêts, et où des zoologues, au début des années 1990, sont des Vietnamiens et des Occidentaux, ont remarqué des cornes assez bizarres, des cornes droites, assez longues, d'un animal où vous ne voyez pas très bien ce que c'était. Et alors, ils ont fait une enquête qui relève, si on veut, de la cryptozoologie, même s'ils se revendiquent peut-être pas comme des cryptozoologues, mais ils ont demandé aux habitants ce que c'était, et ils ont appris que les chasseurs, en tuaient de temps en temps, et ils gardaient les cornes. Et de fil en aiguille, ils ont essayé de savoir un peu plus ce que c'était, ils ont pu obtenir une peau, et puis...
C'est un animal rare, apparemment.
C'est un animal rare, on n'en trouve pas tous les jours. Il vit dans des endroits inaccessibles, enfin, ou relativement inaccessibles. Puis finalement, on a réussi à en avoir des photos et même des individus vivants qu'on a pu garder un peu en captivité.
Et là, on s'est rendu compte qu'il ne correspondait à aucun animal.
Et alors, c'était aucun animal connu des répertoriés. Il était connu des habitants de ces villages vietnamiens, mais il n'avait pas de nom scientifique, il n'était pas connu. Et donc, il a été décrit. Donc, son nom local, c'est Saola. Il a été appelé Pseudorix. Donc, maintenant, il a une identité scientifique.
C'est-à-dire, il est inscrit dans un fichier officiel.
Il n'y a pas vraiment un fichier officiel mais il est décrit officiellement, il est reconnu par la communauté zoologique comme une espèce bien particulière.
Parce que ça, c'est pas évident aussi. C'est vrai que pour ces cryptozoologues qui découvrent des animaux, de nouveaux animaux, même s'ils sont tout petits, combien de preuves faut-il pour que cet animal et quel genre de preuves pour que cet animal devienne un animal répertorié officiel?
La preuve, c'est d'avoir un spécimen, d'avoir un individu qui soit un peu plus ou moins entier, ou au moins qu'on ait une bonne partie de l'animal pour qu'on puisse montrer que c'est différent de tout ce qu'on connaissait jusque-là. Alors ça peut être un animal vivant, là, c'est l'idéal. Ça peut être un squelette, ça peut être simplement un crâne, mais...
C'est un peu un travail d'enquêteur.
C'est un travail d'enquêteur.
Le travail du cryptozoologue.
Ben oui, tout à fait. D'ailleurs, le cryptozoologue, il peut faire très bien son enquête. C'est un peu ce que faisait Overmans dans son bureau, en compilant des archives, des documents, et à partir de là, essayer de faire un portrait robot de l'animal et de dire ça doit être tel ou tel type d'animal.
D'où l'importance des témoignages, c'est ça, des récits qu'il faut collecter. Il n'y a pas qu'évidemment l'expérience sur le terrain, puisque par définition ils se cachent, ces animaux.
Ils se cachent, mais des gens les voient. Alors ça peut être les gens, les habitants du coin qui parfois le connaissent très bien, mais pour eux ça peut être quelque chose de banal, mais la science occidentale ne le connaît pas. Ça, c'est un cas de figure. Ou alors aussi il peut arriver qu'il y ait un peu de légende et de mythe autour de l'animal, et c'est un peu difficile à démêler parfois.
Par exemple sur le Yeti ou l'homme sauvage, il y a des témoignages. Vous avez rencontré une dame qui était persuadée d'avoir rencontré le Yeti du Caucase, c'est ça?
Oui, Marie-Jeanne Kaufmann, c'était une... Elle a cherché cet animal pendant cet animal ou cet homme, on ne sait pas trop ce que c'est, pendant très longtemps, et elle s'est promenée dans ces coins un peu perdus du Caucase, interrogeant les habitants, cherchant des témoignages, des indices. Alors, elle était convaincue de la vérité de ces histoires.
Hein. Et vous, moins convaincu?
Moi, je reste un peu sceptique, parce que tant qu'on n'a pas vraiment une preuve tangible qui pourrait être, je ne sais pas, un squelette ou même un individu qu'on aurait capturé et qu'on pourrait observer, bon.
Mais c'est dur de comment dire, faire comprendre à quelqu'un qui suit une piste qui est peut-être fausse depuis des
parce
décennies
que
ou des
obsession,
années.
C'est une obsession quelque part aussi, une passion.
Chez les cryptozoologues, au sens large du terme, ça peut devenir rapidement une obsession. Il y a des gens qui sont vraiment un peu obsédés par la quête de cet être mystérieux.
C'est d'ailleurs pour ça que vous dites que c'est une science, mais pas que.
Ça peut être une science quand c'est fait dans le cadre d'une démarche zoologique sérieuse, mais sinon ça peut aussi devenir n'importe quoi, disons les choses.
Alors l'une des premières découvertes de la cryptozoologie, c'est l'okapi. On vous raconte comment il a été découvert juste après les infos.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain des vilains des vilains des fous.
Le terme de cryptozoologie, du grec cryptos, caché, zoov, animal, et logos, étude, soit étude des animaux cachés, désigne l'étude des animaux dont l'existence même est sujette à caution.
RTTTL.
Selon ses détracteurs, il s'agit d'une pseudo-science, mais ses défenseurs y voient une science biologique spéculative.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On vous raconte, on partage avec vous les découvertes de la cryptozoologie. Vous ne connaissez peut-être pas cette science, ce savoir, c'est la science des animaux cachés. On en parle avec le paléontologue Éric Buffeteau. Il consacre un article à ce sujet dans la revue Éléphant du mois d'octobre et c'est en partenariat avec RTL. Je disais tout à l'heure, il y a un animal que la cryptologie a fait apparaître, ou en tout cas a pu découvrir et mettre un mot dessus, un nom, c'est l'okapi. Vous nous rappelez à quoi ressemble cet animal et où est-ce qu'on peut l'observer aujourd'hui, dans quelle partie du monde ?
Alors il vit essentiellement, et même uniquement d'ailleurs, dans les forêts équatoriales du Congo, de l'est du Congo, dans les endroits où sa survie est d'ailleurs menacée à cause de la guerre, du braconnage, etc. Et c'est un animal qui ressemble, en fait il ressemble à une petite girafe, mais il a une couleur très différente. Il a le cou plus court qu'une girafe. Il a un pelage foncé avec des grandes rayures noires blanches sur l'arrière-train.
Oui, on dirait qu'il a des pattes de zèbre.
D'ailleurs, ça a provoqué quelques confusions au moment de sa découverte.
Et qui l'a découvert, tiens, d'ailleurs ?
Alors, son histoire, c'était bien avant que le terme cryptozoologie soit proposé par Vagmans. Ça date de l'extrême fin du 19e siècle. Et d'abord, c'est l'explorateur Stanley qui a entendu parler d'un animal étrange qui ressemblait à un âne. C'était les pygmées du coin qui parlait de ça, un âne qui vivait dans la forêt et qui mangeait des feuilles. Bon, il en a parlé dans un de ses livres. Et ensuite, à la fin du 19e siècle, il y a un administrateur colonial anglais qui s'appelait Harry Johnston, qui était gouverneur de l'Ouganda, donc la colonie britannique qui jouxte le Congo, qui jouxte le Congo à cet endroit, et qui en a entendu parler de nouveau. Et comme il s'intéressait aux sciences naturelles, il essayait d'en savoir plus. Alors il écoutait les récits des pygmées, et finalement, avec l'aide de soldats de l'armée belge, enfin qui occupait le Congo, il a obtenu des morceaux de peau de cet animal qu'il a envoyé à Londres. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'était une peau rayée, et le premier zoologue anglais qui a vu ça a dit, bon, apparemment c'est une sorte de cheval ou d'âne très particulier qui vit dans la forêt, qui est rayé comme une sorte de zèbre forestier, en fait. Il lui a donné un nom, le décrivant comme tel. Et pendant ce temps-là, Johnston, en Ouganda, continuait à essayer, avec l'aide de ses officiers qui travaillaient pour l'État du Congo, à avoir de plus en plus de spécimens de cet animal. Et finalement, il a récupéré une peau entière et deux crânes.
Et là, qu'est-ce qu'il découvre?
Et quand il a vu les crânes, il a dit, mais c'est pas du tout un crâne de zèbre, il y a des cornes, ça ressemble absolument pas à un zèbre.
Ça ressemblait à une girafe.
Alors donc, et aujourd'hui, on sait que c'est plutôt
une girafe.
C'est une girafe.
C'est une girafe. C'est de la famille des girafes.
Oui. Qui a piqué le pantalon d'un zèbre.
Au point de vue costume, c'est ça.
Vous voyez la photo sur Internet, c'est incroyable.
Ah oui. Et alors après, bon, on a fini par en capturer vivant. Et maintenant, il y en a des zoos, on peut voir en France même. Et c'est une sorte de, c'est un parent de la girafe, mais la girafe elle vit dans la savane et beaucoup plus facile à observer. L'okapi, il vit au fond de la forêt équatoriale. C'est pour ça qu'il a échappé à la science pendant très longtemps. On connaissait la girafe depuis des siècles, mais au capi, on n'a pas la moindre idée que ça puisse exister.
Mais des découvertes comme ça, on en fait très peu finalement.
On en fait
des bestioles de cette taille-là. Quoi.
Oui, ouais. Ça, c'est un gros animal. Hein, ouais. C'est la taille d'un bon cheval, un capi. Et c'est ça. Il faut bien voir que malgré tout, la plupart des grands animaux, au moins les grands animaux terrestres, je ne parle pas de ce qui vit au fond des océans où c'est plus compliqué, malgré tout, on peut penser qu'on les connaît. Hein, on ne va pas découvrir tous les jours un animal de la taille de l'okapi ou même du saoga.
Et pourtant, ce sont ces animaux souvent gigantesques qui font fantasmer.
Absolument.
Et qui sont le moteur de beaucoup de cryptozoologues, oui. Ou qui en tout cas ont été le moteur avant même que ce terme ne soit inventé par le belge Velmans. Donc par exemple, le monstre du Loch Ness,
tout à fait.
Il a fait fantasmer parce qu'il est énorme, et en même temps il a peut-être fait beaucoup de mal à cette science ou pseudo-science.
Le monstre du Loch Ness a excité les esprits depuis très longtemps, hein. Même si on a voulu faire remonter ça au Moyen-Âge, mais en fait c'est dans les années 30 que ça a commencé à devenir une grande affaire cryptozoologique.
Alors, et récemment il y a un Écossais qui a publié des photos sur Internet, c'était en septembre dernier, et qui dit avoir pris une photo.
Il travaille dans une raffinerie de whisky.
Bon,
donc,
c'est vrai.
Donc on a deux, trois doutes.
C'est
quand
pas
même.
Sympa, Thomas. Je vais d'abord parler de sa photo et après te dire où il travaillait. C'est non, pas bien, bon. Ça. C'est un délit de sale gueule.
Pardon.
Et donc il fait une photo où, en effet, elle est troublante, la photo. De loin, on croit voir, vous savez, les anneaux d'un immense serpent de mer. Bon, en fait, il se trouve que c'est pas un canular, mais c'était pas un serpent de mer, c'était pas le Loch Ness.
C'est-à-dire que des photos du monstre du Loch Ness, s'il en existe depuis des dizaines d'années, et elles sont généralement pas très nettes. On voit quelque chose qui ressemble vaguement à un serpent de mer. Et le problème, c'est qu'il y en a dont on sait que c'est des faux, parce que les faussaires ont avoué qu'ils avaient fabriqué la photo d'une façon ou d'une autre. Le problème du monstre du Loch Ness, c'est que le Loch Ness est un grand lac, certes, mais enfin, c'est quand même pas si gigantesque que ça. Oui. Il a été exploré sous toutes les coutures, avec les moyens les plus techniques et plus avancés, et on n'a jamais rien trouvé. Donc, on peut avoir les plus grands doutes sur l'existence.
On pourrait peut-être laisser tomber, d'ailleurs, même la recherche.
Je crois que maintenant, c'est un peu calmé, disons.
Oui. On peut se concentrer sur le Kraken, en revanche, ou le Kraken, c'est vraiment une mythologie du nord de l'Europe.
Le Kraken, c'est une mythologie du nord de l'Europe, mais le terme de Kraken est passé à quelque chose qui existe bien réellement, c'est-à-dire le calmar géant. Ouais. Et le calmar géant, malgré tout, on en a énormément douté au début du 19e siècle. On a dit, c'est une légende, c'est le Kraken, c'est une histoire de vikings qui ont bu trop de bière extrême. Mais, donc il y a eu une controverse. Est-ce que ça existe vraiment, ces calmars? Il y a beaucoup de naturalistes qui disent non, c'est des inventions. Et puis, il s'est produit une série de déchouages de cadavres de cet animal, de calmar géant, notamment à Terre-Neuve, au 19e siècle. Et là, on a eu les preuves tangibles qu'effectivement, il y a des calmars, en tout cas géants, qui font plusieurs mètres de long avec d'immenses tentacules. Donc, et donc, maintenant, c'est entré dans la zoologie.
C'est plus de la légende,
c'est un animal réel qui existe dans les océans.
Et qui n'intéresse plus les cryptozoologues. On avait consacré une émission entière au mot Kelemembe.
On l'adore à la curiosité.
Donc, on va quand même en dire un mot. C'est quoi cet animal qui passionne des cryptozoologues, et notamment Michel Ballot qu'on avait reçu.
C'est un animal qui vivrait dans les marais d'Afrique centrale, au Cameroun, au Gabon,
au Congo.
Et dans des endroits reculés, pas faciles d'accès. Quand Michel Ballot en parle, justement, on voit que c'est pas de tourpeau là où il est censé vivre.
Oui, il a risqué sa vie plusieurs fois pour y aller. Oui.
Et donc, ça a été décrit, ça a commencé, les premiers témoignages européens, c'est des Allemands au Cameroun, quand le Cameroun était une colonie allemande, donc ça remonte à avant la guerre de 14, qui ont parlé de ça, qui ont donné ce nom indigène de Mokelembembe, et ça a été décrit un peu comme quelque chose qui ressemblait vaguement à un dinosaure, avec un long cou, un animal qui serait très amphibie, en fait. Et alors, donc, ça a donné l'idée que c'était un dinosaure qui survivrait dans ces marécages. Le problème, c'est que l'image qu'on a de ce type de dinosaure aujourd'hui, elle colle pas du tout avec ce qu'on nous raconte sur le Mokelembembe. Parce qu'on ne croit plus que c'était des animaux semi-aquatiques qui passaient leur temps dans des marécages, etc. Donc, l'idée du dinosaure, elle me paraît extrêmement douteuse. Maintenant qu'il y a réellement un animal inconnu là-bas, c'est une autre affaire. Et on peut très bien faire comme Michel Ballot et essayer de le trouver.
C'est bien qu'il reste encore un peu de travail aux cryptozoologues quand même, et aux paléontologues aussi, vous êtes, Éric Buffeteau. Merci beaucoup. Et puis on peut lire l'intégralité de votre article passionnant dans la revue L'Éléphant du mois d'octobre. Merci à vous, à bientôt.
Merci.
Merci.
Vous écoutez RTL.